Bienvenue dans Dessine-moi un corps, le podcast pour tous les amoureux du corps et d'histoire de l'art. Bonne écoute.
Et puis le printemps de cette année-là avait été une saison bizarre et interminable. C'est alors que les choses avaient commencé à changer, mais Frankie ne comprenait pas ce changement. Après un hiver gris et monotone, les vents du mois de mars secouaient les fenêtres et les nuages étaient comme des lambeaux d'étoffe blanche sur le bleu du ciel. Avril survint brusquement et silencieusement, et le feuillage des arbres était d'un vert éclatant et sauvage. Les glycines très pâles fleurissaient dans toute la ville, et les fleurs se fanaient sans bruit. Il y avait quelque chose dans ces fleurs d'avril et dans ces arbres verts qui remplissait Frankie de tristesse. Elle ne savait pas pourquoi elle était triste, mais à cause de cette tristesse inconnue, elle se mit à penser qu'il fallait quitter la ville. Extrait de Frankie Adams, Carson McCullers. Comparer l'adolescence au renouveau du printemps. Alors oui. Le visage bourgeonne de joyeux boutons. On ne se sent plus tout à fait un enfant, mais en même temps pas vraiment un adulte. Le corps change, on ne le reconnaît plus. L'identité est à construire, on se cherche, on veut s'affirmer, mais il est difficile de s'assumer pleinement. Et puis ce qu'il y a de plus étrange, c'est que tout le monde semble fasciné par cette transition avec cette phrase qui me rendait dingue à l'époque. « Ça va, laisse-la, elle fait sa crise d'ado. » Ou bien encore « Ça y est, c'est une ado maintenant, ça pousse !» Tout le monde semble savoir de quoi il en retourne, en témoigne le nombre d'œuvres cinématographiques, plastiques et littéraires sur cet âge transitoire. Le livre de Carson McCullers dépeint cet âge de métamorphose, ce flou dans lequel tout le monde passe à un moment donné de sa vie. Depuis toujours, et c'est là l'ambiguïté sur cet âge, tout un chacun sommes confrontés à l'image hédonique, jeuniste du corps adolescent. Une sorte d'icône de bonheur et de rébellion, d'ignorance et d'amoralité présent partout dans notre société. L'image de l'adolescent avec sa jeunesse, sa beauté, son énergie, son androgynie même, est proposée comme un idéal auquel chacun devrait s'identifier. Tout le monde est invité à se glisser dans la peau du Narcisse, admirant son corps défaible, éternellement jeune et libre. Cette fascination pour la représentation du corps adolescent connaît son apogée avec la photographie au milieu du 19e, mais reste prégnante dans tout l'univers des arts plastiques, notamment en peinture et au cinéma. Pourquoi une telle fascination pour cet âge et quels en sont les codes de représentation ? Trigger warning, cet épisode peut parfois choquer par son contenu. Peut-être vaudrait-il mieux pour certains d'entre vous patienter jusqu'au prochain épisode ou l'écouter à un autre moment quand vous serez mieux préparé. Je vous souhaite une très bonne écoute. Teenage Dream, comme le chante Katy Perry, âge doré, adulé et pourtant si complexe. Âge transitoire où, dans certaines civilisations, ce rite de passage à l'âge adulte est si important qu'il est l'objet d'une cérémonie initiatique. La figure de l'adolescent en art, c'est d'abord une ambivalence certaine. Soit on représente l'adolescent comme un prolongement de l'enfance, sans âge, soit on le représente aux confins de sa puberté, le mettant en scène dans des situations inappropriées et toujours sous couvert d'une sensualité troublante. Coucou Balthus, on n'en est pas fini avec toi. Prenons tout d'abord la figure de l'ange, pas tout à fait enfant ni tout à fait adulte, figure omniprésente en histoire de l'art, il faut bien le dire. L'ange s'impose sur les écrans comme une figuration privilégiée de l'adolescence. De tout temps, l'enfant, l'adolescent ont été régulièrement imagés, représentés d'abord par des angelots, petits poutis aux fesses rebondies, puis des anges aussi bien annonciateurs que destructeurs, exterminateurs ou déchus. Ce qui fascine dans l'image de l'ange, représenté comme un adolescent androgyne, c'est la permanence de l'enfant dans un corps déjà adulte. Là est toute l'ambiguïté. Caractéristique récurrente du style de Sandro Botticelli, l'androgynie des personnages adolescents représentés. Ainsi, les anges de la Madone du Magnificat, au musée des Offices à Florence, ne sont pas asexués, mais ambigus et troublants. Ces jeunes gens sont représentés à l'instant T du basculement de l'enfance dans l'âge adulte, où tout est encore flou, et encore plus la question de la sexualité. Botticelli aimait manifestement les peindre, et on les retrouve dans la plupart des Madones à l'enfant, où des saints et des anges entourent la Vierge. De même, le même procédé est utilisé chez Léonard de Vinci quand il peint son fameux Saint-Jean-Baptiste. L'androgynie reprend de fait les caractéristiques des deux sexes, féminin et masculin. Cela renvoie donc à la représentation des corps adolescents, qu'ils soient hommes ou femmes, une image de pureté qui convient tout à fait à la représentation des anges dont le sexe reste indéfinissable malgré les nombreux débats depuis Byzance autour de ce sujet. Dans la naissance de Vénus, la déesse de l'amour est une très jeune fille dont le visage candide exprime non pas la sensualité mais l'innocence pure et la rêverie. Botticelli choisit de la représenter dans l'instant de sa venue à l'être, objet d'un désir amoureux dont elle ignore tout. Et c'est justement cette ignorance qui caractérise le plus le visage des adolescents en peinture à cette époque et qui perdurera par la suite. Je vois les adolescentes comme un symbole. Je ne pourrais jamais peindre une femme. La beauté de l'adolescente est plus intéressante. L'adolescente incarne l'avenir, l'être avant qu'il ne se transforme en beauté parfaite. Une femme a déjà trouvé sa place dans le monde, une adolescente, non. Le corps d'une femme est déjà complet, le mystère a disparu. Baltus. C'est ce côté inachevé qui fascine donc tant les artistes, qu'ils soient peintres, sculpteurs, photographes ou metteurs en scène. Cet âge de transition où on quitte un soi enfant vers un nouveau soi adulte. Ce basculement a beaucoup intéressé le peintre suisse Baltus. Il représente très souvent des jeunes filles mélancoliques, rêvassant seules dans une pièce plus ou moins dénudée. Ses poses à l'anguille posent questions et à raison. Les œuvres de Baltus présentent la révolution pubertaire de l'adolescence. Dans ses œuvres, la sexualité de la jeune fille est toute potentielle et caractérise cet âge éphémère de la découverte de son corps et de ce qu'on en fait. Cependant, un mot colle à la peau de Baltus, pédophile, penchant qu'il a toujours nié, tout comme sa forte part d'érotisation, préférant y voir les projections perverses du public. Scandale. En novembre 2017, la toile de Baltus, Thérèse Révan, fait scandale à New York. Une pétition qui recueille près de 12 000 signatures dénonce le regard pédophile du peintre sur son modèle, Thérèse Blanchard, qu'il a peinte une dizaine de fois entre 1936 et 1939. La dite pétition demande le décrochage de la peinture, ce que refusera le musée. Cette toile représente une jeune fille pas plus âgée de 14 ans, les jambes écartées, dévoilant ses dessous à la vue du spectateur. Thérèse Révan pourrait tout aussi bien être la Lolita imaginée par Vladimir Nabokov. Roman plus controversé, impossible. Je l'ai lu, je l'avoue, et relu, les pages sont cornées à plein d'endroits. D'ailleurs, corrigeons un malentendu. Lolita, la protagoniste de l'histoire, n'est pas une petite allumeuse bien en dessous de l'âge adulte qui s'habille d'une manière provocante avec une jupe courte pour séduire les sugar daddy et vivre une vie sexuelle débridée. Non, non, non et encore non. Lolita est une jeune fille normale, avec ses naïvetés et son innocence d'adolescente qui est abusée sexuellement par un pervers. De toute façon, c'est simple. Lolita n'a presque pas la parole dans ce roman pour la bonne et simple raison que ce livre nous plonge dans la noirceur de l'âme d'un pédophile et c'est aussi ça qui fait la différence et rend ce livre primordial à mes yeux. Et si vous voulez voir rouge, lisez la définition du dictionnaire Le Petit Robert au sujet de la définition du surnom de Lolita. Lolita, deux petits points, très jeune fille adolescente à l'air faussement candide qui suscite le désir des adultes par l'image d'une féminité précoce. C'est tout pour moi. À Tahiti, Paul Gauguin avait aussi un sérieux penchant pour les jeunes adolescentes vaillées, clamant à qui voulait l'entendre qu'il arrivait uniquement à trouver l'inspiration en présence de cette très jeune fille, avec qui il n'hésite pas à entretenir des relations sexuelles, bien qu'il soit âgé de 30 ans de plus qu'elle. Le tableau « Conte barbare » peint en 1902, que j'ai découvert sur le compte d'Eva Kirillov, provoque un profond sentiment de gêne à la vue de Gauguin, à l'arrière-plan, lorgnant d'un air lubrique les deux jeunes filles, évidemment représentées quasiment nues au premier plan. Je m'interroge d'ailleurs quant au but de le célébrer à travers des expositions, mais ceci est un autre débat. J'ai d'ailleurs réalisé un épisode sur le fétichisme du corps, dans lequel je développe un peu plus le fond de ma pensée. Vous pourrez aller l'écouter si vous voulez. L'adolescence amène aussi forcément à parler de l'hypersexualisation des petites filles. En dehors des concours de beauté à la sauce américaine, ce sujet est malheureusement très bien illustré à travers l'histoire glaçante de l'enfance d'Eva Ionesco. Sa mère, Irène Ionesco, dès ses 4 ans, en a fait l'un de ses modèles de prédilection et lui a imposé des séances de pose, parfois en robe de princesse outrageusement maquillée, parfois dénudée. Je ne vous montrerai pas les photos qui clairement peuvent choquer et heurter, mais vous pourrez en trouver un échantillon sur Internet. De même, tout le monde se souvient, car comment ne pas l'oublier, de l'affaire retentissante qui avait secoué l'Europe et outre-Atlantique il y a quelques années. Le photographe britannique David Hamilton a eu droit à des décennies de célébrité et de succès depuis les années 70, jusqu'à il y a 10 ans, où les voix de 7 jeunes femmes, d'anciens modèles, se sont élevées pour l'accuser de viol. Des jeunes filles de 13 à 15 ans dans la fleur de l'âge, qu'il photographiait dans une mise en scène voyeuriste et plus ou moins dénudée, dans une ambiance de flou artistique pré-raphaélite. Il les surnommait ses nymphettes. Bien au-delà de la quête de l'intemporalité de la jeunesse qu'il cherchait à capturer à travers ses clichés, Hamilton s'était revendiqué de Baltus et Nabokov pour justifier son art. Art ou pédocriminalité, je vous laisse en débattre, mais je pense que la réponse est assez évidente. Pour changer, parce que décidément ce contenu d'épisode est un peu lourd et difficile à entendre, il me faut mentionner cette artiste polonaise que je trouve tout bonnement merveilleuse, Tamara Delempicka, qui en plus de m'évoquer un parfum, m'évoque aussi les années folles et un style néo-réaliste mélangeant esthétique moderne et maniérisme. Elle a réalisé plusieurs portraits de sa fille durant sa carrière. Portant le doux prénom de Kizette, la petite fille semble toujours adolescente alors qu'elle était beaucoup plus jeune dans la réalité. l'artiste saisit le trouble que renvoie ce passage de la femme enfant à la femme adulte. « On ne naît pas femme, on le devient », écrit Simone de Beauvoir en 1949 dans Le deuxième sexe. Si Simone avait certainement raison, il n'empêche que la posture de Kizet en rose questionne. Ces tableaux renvoient également un érotisme sourd, à la fois inconscient et troublant, et surtout très déroutant de la part d'une mère, il faut bien l'avouer. Il n'empêche, je vous conseille quand même d'aller jeter un coup d'œil si vous ne connaissiez pas déjà le travail de cet artiste. Un tableau qui pour moi me trouble et que j'ai découvert en préparant cet épisode, c'est ce tableau d'Edouard Munch, baptisé de manière logique « Puberté » et visible encore aujourd'hui à Oslo. Assise sur le bord d'un petit lit, dans un coin exigu d'une petite chambre, cette toute jeune fille regarde le peintre, nous regarde en fait. Ce face-à-face en équilibre instable est troublant. Il y a bien sûr la nudité, et il y a surtout la posture qui sait quelque chose du regard porté sur elle. Ce tableau m'évoque ce temps particulier d'après l'enfance qui n'est pas encore le temps du tsunami de l'adolescence. Loin de m'évoquer un certain malaise comme je peux le ressentir devant les œuvres de Balthus, cette œuvre me rend mélancolique et me renvoie à mon propre moi quand, adolescente, j'étais moi aussi assise dans ma chambre à contempler ce corps que je découvrais, qui m'effrayait et qui m'intriguait tout à la fois. Le cinéma n'est pas en reste pour parler de l'adolescence. L'adolescence est même un terreau très fertile pour les metteurs en scène. Troubles de l'adolescence, mal-être, puberté, prémices de la sexualité, quête identitaire. Virginie Suicide de Sofia Coppola, Jeune fille de Louise Buñuel, La Boum de Claude Pinotto et Daniel Thompson, Naissance des pieuvres de Céline Sciamma. Bien au-delà des teen movies, c'est une véritable fascination pour cet âge pivot qui s'exerce depuis des décennies. Pour en parler plus précisément, je vous concocte un épisode bonus spécial cinéma avec une surprise qui j'espère vous plaira. Moi en tout cas, j'ai très très hâte. J'espère que cette plongée dans l'adolescence, pas toujours rose, vous aura appris des choses, vous aura fait réfléchir, donné envie de vous documenter, ce fut mon cas après avoir réalisé cet épisode. Je me suis rendu compte que si pour beaucoup cette période est complexe, difficile à vivre, c'est une période qui se prête aux ambivalences, aux expérimentations, à la création. Revivons notre adolescence, quelque part elle a fait ce que nous sommes devenus en tant qu'adultes. Je vous dis à la prochaine, très très vite, prenez soin de vous et de votre corps.